Merci beaucoup. Nous allons passer à la deuxième partie de notre conférence de presse en attendant que M. Scott Campbell nous rejoigne. Nous allons tout de suite aller à Goma. Vous connaissez la règle. Veuillez éteindre vos téléphones, de le mettre sur silencieux et toutes les personnes qui vont prendre la parole, veuillez vous présenter ainsi que l'organe de presse que vous représentez. Bonjour Goma, nous allons prendre trois questions.
Vas-y, première question.
Bonjour, moi je m'appelle Inga Paterne, je suis de l'EPI. Je voulais poser la question au colonel Bass. La question, c'est sur les territoires de Walikale, avec les carrières de mines en haut dans les territoires de Walikale, où les éléments des groupes armés et quelques-uns des FRDC se disputent les mines dans les carrières. Quelle est la position des contingents de la MONUSCO avec ces effets qui se passent à Walikale? La deuxième question, je pose au responsable des droits de l'homme concernant les éléments qu'on est en train de déverser à Kinshasa en provenance de Goma. Aujourd'hui, je ne sais pas si cette branche de droits de l'homme fait le suivi de ces éléments que l'ANR est en train de déverser à Kinshasa pour les arrêter. Merci.
Mon colonel,
oui,
vous avez compris la première question.
Oui, merci pour votre question. Je vais tenter d'y répondre, quoique il me faut un peu plus de clarté. Mais juste pour vous donner la situation dans le territoire de Walikale, effectivement, la majeure partie des mines d'or se trouve dans cette partie du territoire. Et cette partie du territoire était contrôlée par les éléments du NDC Tcheka, qui évolue vers Omate, Bissié et toutes les mines environnantes. Donc, depuis un certain temps, nous avons vu une incursion des éléments Maïmaï Simba qui sont en train de mener des activités dans la zone que vous venez d'évoquer et qui commencent à entretenir des relations conflictuelles avec Tcheka, et nous craignons dans l'avenir un problème ethnique, parce que comme vous le savez, nous avons déjà vu dans le Pinga un problème ethnique entre Tcheka, Kienyanga et les Hunde. De l'autre côté aussi, nous risquons de voir des éléments appartenant à la communauté Kumu s'opposer au Nyanga. Donc ceci, c'est juste pour vous dire qu'effectivement, il y a une bataille pour le contrôle des sites miniers qui sont dans cette zone de Walikale. Maintenant, l'implication des FRDC que vous avez mentionné, ça je ne suis pas au courant. Je ne sais pas s'ils se battent avec les groupes armés pour contrôler les sites miniers.
Pour votre deuxième question, je crois que c'est concernant toutes les personnes qui ont été amenées sur Kinshasa par l'ANR. Notre collègue de droits de l'homme va nous rejoindre momentanément. Si vous le permettez, on va mettre votre question de côté en attendant qu'il arrive. Nous prenons une deuxième question de Goma.
Vas-y.
C'est Norbert Mundoula pour la RTGB. Et ma question est de savoir, le mercredi dernier, vous aviez dressé un bilan qualifié de partagé par vous-même sur l'action de la paix en République démocratique du Congo. Et comment comptez-vous maintenant faire pour nous présenter à la prochaine Indila et qui pourra être qualifiée de positive par les bénéficiaires de la paix, de cette paix qui sont la population? Et tout en sachant que Kampala ou Kinshasa avec les concertations nationales ne sont pas non plus des solutions magiques. Merci.
S'il vous plaît, vous pouvez reprendre votre question parce qu'on ne l'a pas très bien compris.
Je
voudrais le bilan, vous l'aviez présenté la fois prochaine, la fois passée plutôt, c'était le mercredi dernier, vous aviez présenté un bilan partagé ou mitigé sur l'action de la paix en République démocratique du Congo. Maintenant, ma question est de savoir que comptez-vous faire pour justement le présenter à la prochaine en un bilan positif. Un bilan que la population peut qualifier de positif sur l'action de la paix. Tout en sachant que pour parler de Kampala, les concertations nationales peuvent toutefois et peut toutefois ne pas donner de bonnes conditions. C'était ça ma question.
Bon, je ne sais pas si j'ai très bien compris votre question. Je pense que vous voulez savoir qu'est-ce que nous entendons faire pour que le bilan soit plus positif la prochaine fois. Est-ce correct?
Oui.
Ok, oui, c'est ça la question. Ça. Vous savez, au niveau de la MONUSCO, nous sommes dans une situation dynamique. Nous nous remettons constamment en cause, nous posons constamment des questions, nous avons ce qu'on appelle ici les leçons apprises de chaque incident, de chaque situation. Donc, nous sommes, comme je vous l'ai dit, nous sommes dans un dynamisme. C'est une situation que, je dirais, n'est pas statique. Donc, c'est ces remises en cause qui nous ont permis de développer un certain nombre de choses. Comme vous le savez, aujourd'hui, par exemple, nous avons les équipes conjointes de protection, nous avons les systèmes d'alerte communautaire. Toutes ces choses proviennent justement de cette remise en cause permanente et de cette réflexion permanente au niveau de la MONUSCO pour nous permettre de bien faire. Attendons donc dans un an et nous vous dirons ce qui a été fait entre maintenant et dans un an. Ce qui a changé, ce qui n'a pas changé, les leçons apprises et comment nous avons fait face à cette situation. Nous allons nous arrêter ici momentanément. Comme je vous l'avais annoncé, nous avons présentement avec nous M. Scott Campbell, qui est le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Il vient donc nous faire l'économie de ce rapport qui sera présenté aujourd'hui à Genève. Scott.
Merci, merci beaucoup pour la parole. Bonjour, chers collègues. Effectivement, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le rapport qui est le troisième rapport soumis par le commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme au Conseil des droits de l'homme à Genève. Ça, c'est en application d'une résolution du Conseil des droits de l'homme à Genève qui était prise l'année passée, en mars, la dernière fois que les RDC étaient considérés par le Conseil des droits de l'homme. Ce rapport, donc, est présenté à vous en parallèle de cette session à Genève. Le ministre de Justice et Droits Humains, elle est à Genève, en train de participer dans cette session au Conseil des droits de l'homme. Le rapport passe en revue la situation des droits de l'homme dans le pays, ainsi que les activités du Haut Commissariat aux droits de l'homme en RDC, pendant une période de à peu près 18 mois, donc de novembre 2011, donc la période électorale, jusqu'au mai 2013, donc de cette année. Aussi, dans ce rapport, le commissaire elle évalue les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations formulées par le commissariat et d'autres mécanismes des Nations Unies qui s'occupent de la RDC. Donc c'est un rapport qui donne un aperçu de la situation globale en RDC pendant cette période d'à peu près 18 mois. En résumé, qu'est-ce qu'on peut tirer? Dans ce rapport, le commissaire note que la situation des droits de l'homme s'est nettement détériorée depuis son dernier rapport, en mars 2012, en raison d'une augmentation importante du nombre de graves violations des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires. La multiplication des graves violations des droits de l'homme durant la période considérée peut être imputé à divers groupes armés, notamment au mouvement du M23 et aux forces de sécurité et de défense. Et elle est liée aux activités de M23, bien sûr. D'autres groupes armés, notamment des différents groupes Mai Mai, de FDLR, d'ADF, de Mai Mai Lumumba, etc., profitant de l'absence de sécurité créée par le redéploiement à partir du mai 2012 des FARDC pour combattre le M23, ont eux aussi commis de graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. De l'autre côté, le haut-commissaire aux droits de l'homme a accueilli avec satisfaction les mesures prises par le gouvernement pour appliquer certaines des recommandations des mécanismes des Nations Unies qui ont mené à des développements importants, que ce soit dans le domaine de la lutte contre l'impunité que dans l'adoption de nouvelles politiques et réformes législatives qui vise à outiller le gouvernement de la RDC des mécanismes nationaux de protection et promotion des droits de l'homme qui sont conformes aux standards internationaux. Quelques exemples de côté positif des développements qui sont salués par le commissaire. Premièrement, elle salue la promulgation de la loi portant création de la Commission nationale des droits de l'homme en mars 2013. On attend toujours la mise en œuvre effective de ce mécanisme important, bien sûr. Elle a noté, le commissaire aussi, des avancées dans l'application de la loi contre la torture. Et depuis mars 2012, il y a eu plusieurs cas des militaires de la FARDC, les membres de la PNC, un agent de l'ANR et d'autres, qui ont été condamnés à des peines importantes pour avoir commis des actes de torture. Et ceci est salué par le commissaire. Il y a aussi une augmentation du nombre des poursuites judiciaires en général, en l'encontre des militaires des FARDC et des agents de la PNC qui étaient impliqués dans la violation de droits de l'homme, y compris pour les cas de violence sexuelle. Et je pense pendant même ces conférences de presse, nous partageons avec vous des exemples concrets lorsqu'il y a des audiences foraines, des condamnations des membres des forces de défense et sécurité pour des violations graves de droits de l'homme. Elle note aussi, Madame la Commissaire, l'arrestation du général Bosco Ntaganda et son transfert à la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en mars de 2013. Et elle note aussi, en général, une approche et une attitude du gouvernement vis-à-vis la situation grave des droits de l'homme, qui est aujourd'hui beaucoup plus ouverte et plus transparente et plus positive et active par rapport au passé. Le commissaire note aussi quelques développements très préoccupants, bien sûr. Le commissaire se prononce vivement préoccupé par le fait que malgré les efforts du gouvernement, la situation en général des droits de l'homme s'est détériorée d'une façon significative depuis son dernier rapport, spécialement à l'est du pays, où une augmentation significative du nombre de violations des droits de l'homme a été observée. Je partage avec vous juste quelques exemples. Au nord Kivu, dans le sud du Masisi, aux alentours du groupement de Ufamandu, le commissaire a noté pendant une période de 4 mois, donc en 2012, de avril 2012 jusqu'au fin septembre 2012, elle a noté 264 cas des exécutions arbitraires faites par les groupes Mai Mai, le FDLR et le Niatura. Et ça, c'est dans un groupement, pour ceux qui connaissent le Nord Kivu, le groupement de Ufamandu et Niamaboko sont des groupements relativement petits. Donc, que dans cette zone très très limitée, elle a noté ce nombre très élevé des exécutions arbitraires commises par les groupes armés, et elle a noté l'absence des forces de défense et sécurité pour protéger la population dans cette zone. Elle note aussi dans son rapport beaucoup d'autres exemples pareils, j'en passe. Elle note aussi votre situation en tant que journaliste et la situation des défenseurs des droits de l'homme qui restait très précaire. Les journalistes, comme vous le savez, sont assez souvent l'objet d'intimidation, de menaces de mort, d'arrestations arbitraires et autres violations des droits de l'homme de la part des agents de l'État et par des groupes armés. Et nous avons noté, comme vous, je pense, juste dans les derniers mois, plusieurs cas des menaces contre les journalistes, des enlèvements des journalistes, les membres de la société civile, les défenseurs des droits de l'homme, au Nord Kivu principalement, mais ailleurs aussi. Et nous avons noté l'assassinat d'un défenseur des droits de l'homme à Pueto pendant le mois de juillet. Ce dernier cas n'est pas inclus dans ce rapport de l'haut commissaire qui couvre la période jusqu'au fin mai 2013. Le commissaire fait quelques commentaires aussi sur la lutte contre l'impunité. Elle attire l'attention sur l'ampleur du phénomène de l'impunité en RDC en notant certaines faiblesses et certains manques de capacité au sein du système judiciaire. Le rapport souligne que les élections présidentielles et législatives tenues en novembre de 2011 ont été entachées par des graves violations des droits de l'homme, dont des exécutions extrajudiciaires imputables principalement à des agents de sécurité et des forces de défense nationales. Je pense que vous êtes familier avec notre rapport qui est sorti l'année passée sur cette situation. Et malgré les enquêtes qui ont été menées, nous sommes toujours dans l'attente des résultats concrets pour traduire ceux qui sont responsables en justice. Le commissaire souligne aussi l'état déplorable en ce qui concerne la violence sexuelle en RDC. Et pendant la période considérée par ce rapport, notre bureau, le commissaire, a enregistré une augmentation significative du nombre de viols massifs commis par les groupes armés et aussi par les militaires des FARDC. Pour citer un exemple, en novembre 2012, après que le M23 ait capturé la ville de Goma, les militaires des FARDC se sont retirés à Minova, au sud Kivu, où ils auraient commis des viols massifs et d'autres violations des droits de l'homme dans une période ne dépassant pas 10 jours. Dans ce contexte, au moins 135 femmes et filles étaient victimes de violences sexuelles, principalement de viols par la FARDC. Et pendant la même période, au moins 59 cas de violences sexuelles auraient été commis par les combattants du M23 dans la ville de Goma. En plus, il faut noter, des combattants Maimai Simba ou bien Lumumba auraient aussi commis de viols massifs dans le territoire de Mambasa, dans la province orientale, en juin et novembre 2012, où ils auraient violé au moins 110 femmes. Donc, il y a plusieurs groupes armés, en plus des forces de défense et sécurité nationale, qui sont impliqués dans les cas de viol massifs, selon le rapport de l'eau commissaire. Ainsi qu'indiqué par l'eau commissaire dans ses rapports précédents, la plupart de ces cas de viol, malheureusement, ne font pas l'objet d'enquêtes ou de poursuites. Et dans les cas où les auteurs sont condamnés à payer des réparations, le commissaire note que les victimes ne perçoivent ces réparations que rarement, voire jamais. Quelques conclusions et recommandations du rapport de le commissaire. Dans un contexte toujours qui est marqué par une escalade du conflit armé dans l'est du pays et une conséquente augmentation des violations des droits de l'homme et du droit humanitaire, le commissaire reconnaît que la RDC fait face à des énormes difficultés pour mettre en œuvre les recommandations des mécanismes des Nations Unies s'occupant des droits de l'homme et du Haut Commissariat aux droits de l'homme, principalement à cause du manque de capacité à travers le pays et aussi une certaine manque de volonté pour des cas de poursuite contre les coupables des abus dans le domaine des droits de l'homme. Donc, les recommandations suivantes ont été soulevées dans la conclusion du rapport. Je tire juste quelques exemples de ces recommandations. Première chose, elle recommande qu'on accélère la réforme du secteur de la justice, bien sûr en allant en parallèle avec la réforme du secteur de sécuritaire, mais notamment en accroissant les crédits budgétaires et en mettant en place les mécanismes judiciaires et non judiciaires nécessaires pour remédier aux abus à grande échelle commis dans le domaine des droits de l'homme partout dans le pays. Donc il y a un vrai manque de capacité auquel il faut faire face. Elle recommande aussi qu'on veille à ce que la future Commission nationale des droits de l'homme bénéficie d'un appui sous la forme de moyens financiers et logistique nécessaire pour lui permettre de fonctionner avec efficacité conformément aux principes de Paris, qui sont les principes de base, les principes internationaux pour assurer que ce mécanisme fonctionne d'une manière adéquate. Le commissaire recommande aussi qu'on accroisse les crédits budgétaires destinés aux services de santé, aux services éducatifs et aux services sociaux, afin d'améliorer les conditions de vie et la population congolaise et permettre ainsi à celle-ci de réaliser ses droits économiques, sociaux et culturels, que malgré l'échelle énorme de violence et de violations liées avec le conflit armé, elle estime que ce sont les droits socio-économiques, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à l'emploi qui frappent la population congolaise d'une manière très très dure et d'une manière quotidienne. Le commissaire recommande également qu'on adopte une législation relative aux crimes internationaux, notamment une loi donnant effet au statut de Rome de la Cour pénale internationale et en même temps à une loi pour créer des chambres spécialisées mixtes. Et elle estime que ces deux lois seront capitales et cruciales pour faire face aux crimes internationaux commis pendant les dernières années en RDC. Et dernièrement, et pour conclure, le commissaire recommande que le gouvernement adresse une invitation permanente à tous les titulaires de mandats au titre des procédures spéciales thématiques et fournisse des réponses détaillées aux communications qui lui adressent. Donc, que tous les rapporteurs spéciaux, les experts indépendants du système des Nations Unies profitent d'une invitation ouverte pour qu'ils puissent visiter la RDC quand ils veulent. Sur ce, je vais m'arrêter et je suis bien sûr ouvert à vos questions.
Merci Scott. Avant de passer de demander des questions, il y a eu une question qui est venue de AP de Goma, qui ne rentre pas dans cette période, mais la question concerne le sort de toutes les personnes qui ont été transférées à Kinshasa par l'ANR. La question était de savoir est-ce que les droits de l'homme suivent la situation de ces personnes.
Oui, bien sûr. Nous avons des contacts réguliers, une coopération presque quotidienne avec les services de l'ANR. Nous échangeons avec régulièrement sur tous les cas qui sont portés à notre attention. Et nous insistons dans nos échanges avec l'ANR que tous les cas des personnes détenues par l'ANR soient transférés à la justice dès que possible, selon la loi en vigueur. Mais certainement, c'est une préoccupation que nous avons à travers le pays, que ces personnes détenues par l'ANR sont détenues d'une manière légale et selon la loi congolaise et en respectant les principes de droits humains.
Ok, merci. Il restait une question encore de Goma. Nous allons prendre cette question avant de revenir ici à Kinshasa.
Oui, c'est Hortense pour Digital Congo. La question s'adresse à M. Scott, directeur de droits de l'homme. Votre rapport sur cette détérioration de la situation de droits de l'homme à l'est de la RDC est assez clair. Et vous venez même de citer les auteurs. Je veux savoir si vous allez vous arrêter là, ou à noter ou à rendre public le rapport. Est-ce qu'il y a des sanctions? Est-ce qu'il y aura des mécanismes de suivi? Et aussi, quand est-ce que ça sera mis en vigueur? Parce que vous avez noté, vous avez mené des enquêtes, mais ça sera quoi la suite? Parce qu'au fur et à mesure,
okay,
la situation
merci beaucoup,
s'est détériore.
Merci Goma, on a compris la question.
Merci beaucoup Madame Hortense, merci de cette question. Bien sûr, les rapports sont beaux à lire et à publier. Le rapport est déjà rendu public. Il est sur le site web de l'Haut-Commissariat et nous allons aussi distribuer les copies au moins ici à Kinshasa. Et j'espère que mes collègues à Goma aussi peuvent vous fournir avec des copies de ce rapport qui est rendu public déjà et qui est accessible sur les sites web et qui, encore une fois, est présenté d'une manière publique devant la communauté internationale à travers le Conseil des droits de l'homme aujourd'hui à Genève. Pour le suivi, d'un côté, le gouvernement est en train de mettre en pratique déjà certaines de ses recommandations à travers le processus qui s'appelle l'examen périodique universel. La RDC donc a reçu plus de 100 recommandations par cette même communauté des États, le Conseil des droits de l'homme, en 2009, lorsque la RDC passait en revue, passait devant le Conseil des droits de l'homme pour présenter son premier rapport. La RDC, en avril, fin avril, début mai de 2014, la RDC sera encore une fois devant le Conseil des droits de l'homme pour faire rapport et répondre à votre question, Madame Hortense, de comment la RDC a mis en œuvre ses recommandations parmi d'autres recommandations qui sont là depuis longue date. Vous le connaissez mieux que moi, il y a pas mal de recommandations qui ont été faites depuis longtemps. La question, c'est les mettre en pratique. Donc, la RDC a la première responsabilité, bien sûr, de mettre en œuvre ses recommandations. Elle doit répondre à la communauté internationale pendant le mois d'avril et mai. La date précise n'est pas encore fixée, mais lorsqu'elle va répondre, elle va passer en revue devant le Conseil des droits de l'homme. Aussi à notre niveau, sur le plan national, je dois vous dire que on n'est pas là juste pour publier les rapports, dénoncer les violations ou même blâmer les auteurs. Nous avons un engagement qui est très positive, très constructive avec les autorités. Comme je disais dans mes premières remarques, nous avons des réunions régulières avec les autres autorités militaires, policières et civiles, bien sûr, des différents ministères qui s'occupent des questions de droits de l'homme, avec la justice, bien sûr, la justice militaire, la justice civile. Et nous en parlons de ces défis avec eux, nous faisons des recommandations et bien sûr le système des Nations Unies, la famille des Nations Unies, essaie de porter le maximum aussi d'appui pour mettre en œuvre certaines de ces recommandations. Donc nous sommes là aussi pour accompagner l'État congolais et bien sûr la société civile aussi dans la mise en œuvre de ces recommandations.
En ce qui concerne les rapports, vous pourrez vous adresser directement auprès de nos collègues de l'information publique dans les secteurs là où vous vous trouvez. En principe, dès cet après-midi, ils auront les copies et ils pourront vous les donner. Nous venons maintenant à Kinshasa. Nous allons commencer sur la droite. Première question, Tropicana.
Oui, Albert Lomba, Tropicana FM et Numérica TV. Je voudrais poser la question à monsieur le porte-parole militaire. Et selon les informations diffusées par les Nations Unies, le groupe armé appelé LRA a l'intention de rendre les armes, alors qu'il est accusé d'atrocités qui ont été commises dans les quatre pays, RDC, RCA et Sud-Soudan. Est-ce que vous pouvez confirmer l'information et quelle est la position des Nations Unies face à cette proposition de LRA?
Oui, merci. Donc, la position des Nations Unies face à cette déclaration de la LRA ne peut qu'être saluée positivement, parce que au moins ça mettra un terme aux atrocités que subissent toutes les populations de ces différents pays, parce que vous l'avez évoqué tantôt, la LRA est entre le Centrafrique, l'Ouganda, la RDC et le Sud-Soudan. Donc je pense que c'est un pas significatif justement dans la recherche d'une solution définitive aux exactions ou aux activités de la LRA, car comme vous le savez, la LRA a une dimension internationale. Elle est là depuis 1986 et depuis 1986, elle écume tous les pays répandant la mort et la désolation au sein des populations civiles. Oui, nous avons appris et nous avons aussi appris par l'entremise du porte-parole du gouvernement centrafricain que la LRA avait décidé de mettre un terme à ses activités. C'est une chose que nous encourageons et que nous saluons.
Oui, Scott.
Je voulais juste compléter mon collègue, le porte-parole militaire, en étant très très clair là-dessus, sur les principes. Je voulais être très clair sur les principes des Nations Unies en ce qui concerne les amnesties pour ceux qui sont responsables pour les crimes internationaux, donc les crimes graves, génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, graves violations des droits de l'homme. Il n'y a aucune amnestie, donc, pour les membres de LRA ou bien d'autres groupes armés, pour ceux qui sont responsables de ces crimes internationaux, donc les crimes les plus graves. Pour les crimes de nature politique ou plus mineurs, les amnesties, l'intégration des combattants, il n'y a pas de problème. Mais les Nations Unies s'est prononcées très clairement là-dessus, et donc c'est applicable au cas où vous citez de LRA. Il n'y a aucune amnestie pour ceux qui sont responsables pour les crimes internationaux. Et je devrais souligner que c'est une position qui est partagée à 100% par le gouvernement congolais, pas plus que le lundi, le chef de l'État, son Excellence le président Kabila, a cité l'impunité comme cause fondamentale de l'insécurité et la violence dans la sous-région des Grands Lacs. Et le gouvernement, au niveau national ici, a répété à plusieurs reprises sa position vis-à-vis les amnesties et l'impunité pour ceux qui ont commis les crimes internationaux. Donc je pense que le gouvernement de la RDC et les Nations Unies sont sur la même longueur d'onde en ce qui concerne cette question fondamentale.
Deuxième question sur la droite, RTNC.
Merci, c'est Venant Vaudissa pour la RTNC. Monsieur Mounoubaï, vous pouvez répondre à cette question. La réunion de haut niveau de lundi à New York, à laquelle participe le chef de l'État, donc le pays est représenté au plus haut sommet. Et il y a aussi la présence de Madame Robinson pour l'Afrique, la région des Grands Lacs, et ainsi que Monsieur Kobler. Mais j'aimerais mieux savoir, outre le développement survenu dans la région et les avancées enregistrées, quel était le message ou quel sera le message de M. Kobler, lui qui s'occupe spécialement de la RD Congo par rapport à ce qui s'est passé dans l'est du pays? Ne fût-ce qu'une idée sur ce qu'il va dire. Merci.
Bon, d'abord, la présence de M. Kobler lors de cette réunion prouve que c'était important pour lui d'y être. C'est une réunion qui a eu lieu, une réunion avec des chefs d'État, de gouvernement ou de leurs représentants, une réunion convoquée par le secrétaire général des Nations Unies et la présidente de la Commission de l'Union africaine. Bien entendu, M. Kobler est allé là-bas en tant que représentant spécial du secrétaire général dans un des pays concernés par cet accord qui est un accord régional. Je pense qu'il ne peut que saluer d'abord le fait que cette réunion de suivi ait eu lieu. Ça a permis de faire l'état des lieux et de faire un certain nombre de recommandations pour que dans cette poursuite, dans ce processus pour une paix durable dans la région. Voilà ce que je peux vous dire. Nous prenons une troisième question de la droite avant de revenir sur la gauche.
Merci, moi c'est Flavien Sans pour la compte des Planètes Télévision. Ma préoccupation c'est sur les droits de l'homme. Monsieur Scott, quelle est votre réaction? Il y a quelque temps, les M23 avaient organisé une audience foraine. Il y avait même condamné d'autres personnes et d'autres étaient exécutées. Quelles sont les recommandations que vous avez formulées auprès des dirigeants des M23 ou il y a un rapport particulier que vous avez déposé suite à cette situation? Merci.
Merci de votre question. C'est clair que selon la loi internationale, le M23 n'a aucun droit d'organiser des procès judiciaires. Donc tout acte qu'il pose de créer une structure parallèle au gouvernement est contre la loi internationale et la loi nationale. Donc nous ne pouvons que condamner un tel procès judiciaire organisé par le M23. Et pour nous, je pense que la position des Nations Unies est très claire. Pour le M23, il n'y a que question qu'ils déposent leurs armes et ils font face à la justice.
Merci. Merci. Nous revenons sur la gauche. Oui, derrière vous. Derrière.
Philemon Rongonia pour la RTGA. Colonel, je voulais savoir les tensions dont vous avez fait allusion dans le nord de Goma. Il s'agit de quoi concrètement? Qu'est-ce qui se passe?
Merci. Les tensions au nord de Goma, c'est, comme vous le savez, le M23 s'est replié vers Kibumba. Les FRDC sont à Kibumba. La brigade d'intervention évolue dans la zone de Kibati, trois antennes. Donc la tension est perceptible compte tenu justement de la réorganisation observée au niveau du M23, mais aussi au renforcement de certaines positions. Donc c'est pour ça que nous avons évoqué cette tension au nord de Goma.
Devant vous.
Merci pour la parole. C'est Safroyan pour le peuple. J'ai une préoccupation. Il y a deux concessions pour dire la concertation nationale et le dialogue inclusif, selon l'accord cadre d'Addis Abeba. La MONUSCO fait quelle lecture pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur le point de discordance en RDC? Je vous remercie.
Je pense vous adresser à la mauvaise tribune. Adressez-vous à ceux qui sont partis dans ces rencontres pour qu'ils éclairent. Nous passons à la prochaine question. Je crois derrière. Oui.
Honoré Mbenga, agence presse associée APA. Ma question s'adresse à M. Scott. Vous avez évoqué tout à l'heure là la bonne volonté des autorités congolaises de lutter contre l'impunité en ce qui concerne violation des droits de l'homme. Est-ce que vous pensez que la justice serait faite aussi longtemps que la justice civile, vous l'avez reconnu tout à l'heure là, qu'elle est faible quelque part? Parce que, à mon sens,
donc on prend la question. Merci beaucoup.
Susceptible à la corruption. Comment est-ce que vous entendez éradiquer cette corruption pour appliquer la justice? Merci.
Ok, merci. Scott.
Merci beaucoup de la question. Il est vrai que le commissaire a noté dans son rapport une certaine amélioration ou un certain effort fait par et la justice militaire et la justice civile en ce qui concerne la lutte contre l'impunité. La preuve, c'est dans le nombre des cas des poursuites judiciaires et les condamnations et la nature des condamnations que nous avons documentées depuis 2012. Et là, il faut reconnaître qu'il y a vraiment un effort qui est fait par nos collègues de la justice militaire et civile. Néanmoins, il y a beaucoup de problèmes structurels. Donc la justice militaire, par exemple, ne profite pas des moyens logistiques pour faire son travail. Les salaires des magistrats, des procureurs, etc. sont toujours à un niveau inadéquat, chose qui favorise effectivement les ingérences dans l'indépendance, comme vous faites allusion. Donc c'est un facteur qui est réel et qui existe toujours. Il n'y a personne, je pense, qui va nier qu'il y a de l'interférence dans certains procès au sein de ce pays. Pour éradiquer, je pense qu'il faut deux choses. Il faut des sanctions pour chaque cas où il y a une interférence, où il y a corruption, comme vous le dites. Et de deux, il faut doter aussi l'appareil judiciaire des moyens adéquats pour que les juges, les magistrats et militaires et civils, les procureurs et militaires et civils peuvent faire le travail, peuvent vivre d'une manière adéquate et faire le travail effectif pour qu'ils soient à l'abri de toute tentation de corruption ou de l'interférence politique. Merci de la question.
Voilà, merci beaucoup. Nous avons légèrement débordé, mais Scott est encore dans la salle. Notre collègue Di, chargé de la protection de l'enfant, aussi est dans la salle. Vous pouvez les approcher pour d'autres informations si vous voulez. Merci à nos auditeurs de Radio Okapi qui nous ont suivis en direct. Merci à nos collègues de Goma. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain.
Merci à notre collègue Moubaï.